C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Je veux parler ce matin d'abord de violence pour deux raisons. Le premier ministre français, Gabriel Attal, qui était au Québec la semaine dernière, là, qui a fait un discours très remarqué sur les liens entre le Québec et la France, marque son arrivée au pouvoir. Ça fait 100 jours qu'il est premier ministre. Et il fait un discours actuellement sur la violence chez les ados. Il a choisi, pour faire ce discours, de se rendre en Essonne, où un ado a été tabassé à mort le 4 avril dernier. Et ça fait quelques événements d'extrême violence qu'on signale en France. Et il annonce une série de mesures. Et là, je ne vais pas vous donner tout ça en détail, mais essentiellement, il veut créer, dès l'école primaire, là, parce qu'on parle bon de meurtre, mais on parle aussi de professeurs qui se font bousculer, de directeurs d'établissements qui sont menacés, de jeunes d'une violence gratuite. Il a parlé ce matin de la dépendance aux écrans. Il dit que ça n'a plus aucun sens, qu'on a des ados, des jeunes qui vivent dans un monde hors contrôle et que c'est la responsabilité des adultes de mieux s'assurer d'une surveillance pour ce qui est de la consommation de ce temps écran, là, que ce soit téléphone ou tablette ou ordinateur. Il veut également que des jeunes qui sont violents soient placés, là je vais prendre l'expression française, là, dans un internat loin du quartier où ils habitent, loin du quartier qu'ils fréquentent, où des amis de gangs sont encore présents. Et il a dit, et je cite, qu'il est venu le temps en France et ailleurs probablement de placer la notion d'autorité au cœur de la République et ce qu'il appelle un sursaut d'autorité, de fermeté rendu nécessaire parce qu'on ne peut pas accepter cette telle violence. Puis ça arrive au moment où je lisais ce matin qu'il y a une formation qui est donnée sur la contention qui fait fureur dans le Bas-Saint-Laurent. C'est Radio-Canada qui nous apprend ça. 300 employés, c'est pas rien, là, 300 employés des centres de services scolaires, des phares et des monts et marées se sont inscrits à une formation sur la maîtrise physique des élèves en crise offerte par un syndicat de l'enseignement. Et on est même surpris de voir autant d'inscriptions. C'est le syndicat qui s'occupe donc de cette formation pour ses membres. Et ce sont des gens qui suivent ce module en ligne un soir de semaine. Et qu'est-ce qu'on leur apprend? Ben évidemment, à pouvoir développer des techniques d'intervention, tout ça en raison des problèmes liés à l'intégration dans les classes régulières ou dans les écoles d'élèves qui ont des problèmes de comportement. Quels sont les droits? Quels sont les droits de l'enfant, mais les droits des enseignants aussi? Les responsabilités, comment intervenir sur le plan physique. Alors tout ça, ça se passe donc dans le Bas-Saint-Laurent. Et puis aussi ce matin, on peut dire qu'on se retrouve avec tellement de nouvelles de fraudes, de vols, d'arnaques, de mensonges. C'est un peu décourageant, puis c'est important qu'on fasse le tour de ça. D'abord, le prix de l'essence, c'est une augmentation majeure, là, près de 1,92 $ le litre. C'est pas encore partout, mais c'est un saut, là. Je pense que c'est le prix de l'essence le plus élevé depuis 2 ans environ. Et on commence à flirter avec le 2 $ le litre pour ce qui est de l'ordinaire. Donc, premier constat ce matin, forte augmentation. Le nombre de fraudes a bondi de 15% en 2 ans. Ça, c'est ce qu'on sait. Parce que c'est pas tout le monde qui déclare, il y a encore là une gêne qui s'installe. Quand tu dis, je suis tombé dans le piège d'un représentant qui me téléphone pour me dire que quelqu'un, même déguisé en employé de Poste Canada, va passer pour venir chercher ma carte de guichet et que je me suis fait vider mon compte. Puis là, c'est toujours pareil, est-ce que vous avez donné votre NIP? Non, j'ai pas donné mon NIP. Peut-être pas, mais alors les gens veulent pas porter plainte, tentent de récupérer les montants auprès des institutions financières. En Mauricie, c'est une augmentation de 64%, Centre du Québec 30%, Montréal, c'est un peu plus autour de 20% d'augmentation. Et ce qu'on appelle la fraude du faux représentant, c'est pas juste des courriels où on vous demande de cliquer, là. C'est ces messages qui viennent de l'étranger, qui sont rarement bien fait, là. C'est souvent tout croche. Moi, j'en reçois de Vidéotron, j'en reçois de Bell. Puis c'est clair que c'est une arnaque, là, tu sais. Mais des gens qui sont isolés, des gens plus âgés, vulnérables, qui se font un peu ensorceler par des beaux parleurs, et tout ça se passe vite pour t'as pas le temps de réagir, et tu donnes des informations précieuses ou des documents précieux. L'autre chose ce matin, le Journal de Montréal qui nous parle de ce qui est recyclable et ce qui ne l'est pas. Et malgré l'étiquetage de certains produits, on va laisser entendre que ce que vous avez mis dans le bac, c'est recyclable, alors que ce ne l'est pas. En tout cas, ce ne l'est pas au Québec. Parce que, qu'est-ce qui est recyclable ou non? Il y a des trucs qui, en fait, que c'est possible de recycler au Québec, puis il y en a d'autres, non. Et là, on donne des exemples ce matin de produits que vous allez retrouver. Que ce soit, par exemple, le couscous qui est vendu par la maison Click. C'est écrit, s'il vous plaît, recyclé. Mais ça a l'air que tu peux pas recycler ça au Québec. D'autres produits également, du riz jasmin Dente. Il y a deux enjeux. Fausse information, ce qui est illégal, ou une information qui ne tient pas compte du marché québécois. Et quand des items non recyclables se retrouvent dans le bac de recyclage, ben c'est détecté et on envoie ça aux ordures traditionnelles. Un autre cas de fraude à l'Agence de revenus du Canada, 37 millions de dollars que des fraudeurs auraient encaissés à titre de remboursement de la taxe de vente. Et ce qu'on découvre finalement, c'est qu'au total, c'est 100 millions de dollars probablement qui auraient été versés de façon irrégulière par l'Agence du revenu. C'est une entreprise qui s'appelle Goldline qui achète et vend en vrac des minutes de liaison téléphonique sur Internet. Il y a une enquête de Radio-Canada là-dessus. Et comme il y a une série de transactions, c'est un intermédiaire, ben on se charge les taxes. Et pour les policiers, c'est ce qu'on appelle une fraude carrousel. Et ça existe depuis de nombreuses années. Tu crées une toile d'araignée d'entreprise, tu multiplies les transactions, les factures, qui sont bidons. Et après ça, ben tu réclames des taxes. Et visiblement, ça a été payant. Il y a les avocats du cabinet KPMG qui représente Goldline, qui au début ne voulait pas que les détails soient connus, qui ont finalement dit oui. Mais donc, il y a des enquêtes, des procédures qui continuent là-dedans. Puis en plus, ce matin, on découvre dans la presse que des lunettes d'éclipse vendues par Canadian Tire n'étaient pas conformes. Et, tu sais, genre, lunettes approuvées par la NASA, mais qui offraient pas une protection adéquate au moment de l'éclipse. Et on comprend que y a un expert là de l'université de Waterloo qui a examiné ses lunettes. Puis bon, il y a Canadian Tire, mais on sait qu'il y en a d'autres là. Et la protection était minimale. Donc quelqu'un qui peut-être portait ses lunettes mais regardait l'éclipse pas trop longtemps, peut-être pas d'enjeu. Mais quelqu'un qui aurait fixé l'éclipse longtemps avec ses lunettes là. Les symptômes peuvent se produire jusqu'à 12 heures après l'éclipse. Alors ça, c'était vendu par Canadian Tire. Évidemment, la question, mais comment ça se fait qu'ils ont vendu ça? Tu sais, des fois, tu achètes ça, puis sur des sites de revente, sur la rue, il y a des auditeurs qui se sont fait avoir, des gens qui se promenaient avec des boîtes de lunettes, puis avec, encore là, fausses informations, parce qu'il y avait un engouement, parce qu'on pouvait vendre ça cher. Ben, c'était évidemment des produits de mauvaise qualité. Et puis aussi, on apprend que des agences qui représentent des infirmières, les agences privées, se retrouvent sur la liste noire du gouvernement. Il y a des agences qui nous ont volé. Ils ont volé le trésor public pendant la pandémie en chargeant un tarif complètement dérisoire, pas dérisoire, mais hallucinant, c'est plutôt ça, là. Et le gouvernement était coincé. La presse a enquêté là-dessus. Donc, il y a trois agences de placement de personnel qui viennent d'être placées sur la liste noire de l'Autorité des marchés publics. Semble-t-il qu'ils ont participé à un stratagème de collusion. Collusion, c'est quoi, c'est la collusion? Les gens se mettent ensemble, déterminent les prix, leur part de marché, et l'acheteur est coincé. La ville, le gouvernement. Et c'est, en tout cas, les prétentions. Il y a trois autres agences également qui ont été placées sur la liste noire pour des raisons de non-conformité. Et on sait que l'objectif du gouvernement, c'est de sortir ces agences du système de santé. Ça se fait par étapes, mais c'est ce qu'on veut faire. La question, est-ce qu'on va réussir à se sevrer des agences de santé privées? Et est-ce que le personnel va faire le saut vers le réseau public? Parce que t'as beau dire, on n'a pas besoin, mais il y a des postes non comblés. Puis actuellement, il y a encore, évidemment, beaucoup d'agences qui travaillent avec le gouvernement, avec les hôpitaux. Et on le voit avec le rejet de l'entente de principe par la FIC. Là où ça accroche, on s'entend pour dire que c'est peut-être pas super attirant pour quelqu'un qui est au privé de revenir vers le système public. Le ministre Christian Dubé disait qu'au total, là, il y a environ 1000 personnes qui ont manifesté l'intérêt de revenir ou sont sur le point là, de revenir dans le réseau de la santé. Je poursuis, je parlais des agences juste avant l'intervention de Marc. Le Devoir nous dit ce matin qu'on parle du système de santé des hôpitaux, mais même dans les centres jeunesse et foyers de groupe à Montréal, on se tourne vers les agences de placement. Les éducateurs spécialisés et les agents d'information du privé ont travaillé 185 000 heures sur une période d'un an, deux fois et demi de plus que l'année précédente. Ça a coûté 12 millions. Puis encore là, on peut bien débattre jusqu'à demain là, de la pertinence de se tourner vers des agences. Quand t'as pas de personnel, quand tu dois donner un service de première ligne avec des jeunes en difficulté, puis des jeunes qui ont des problèmes graves, là, souvent, ben tu peux pas dire ils reviendront dans deux semaines. Déjà qu'il y a une pression énorme chez les intervenants de la DPJ pour régler les dossiers, puis il y a un roulement de personnel encore une fois. Vous voyez donc on se tourne vers les agences de placement également. Et puis, notre ami Sylvain Charlebois a comparé deux tableaux sur le prix des aliments. Tu sais, parce que Statistique Canada nous dit, ben finalement, oui, le prix augmente, mais peut-être que les gens ont une mauvaise perception de la réalité. Alors, il a pris le tableau de Statistique Canada, et lui, il est à l'Université Dalhousie, puis il a fait son comparatif sur le prix. Et je vous donne quelques exemples ce matin. D'abord, de façon globale, semble-t-il qu'il y a une différence de 6 % un peu moins que 6 % là, entre ce que Statistique Canada affirme et le tableau comme tel de l'Université Dalhousie. Je vous donne des exemples. L'écart sur les prix, là, pour les oranges, c'est 26 %. C'est énorme. Les fraises, 24 %. Les saumons, le saumon, il y a un écart de 10 %. Les fruits surgelés, 9 %. Donc, tu sais, des fois, des gens me disent, il me semble que quand on prétend que le panier d'épicerie est en hausse de 5-6 %, que c'est pas mal plus que ça en réalité. Ça dépend ce que vous achetez, ça dépend des produits, quel type de bannière, quelle quantité, tout ça est vrai, là. Mais j'ai pas l'impression que, globalement, on a devant nous des augmentations peut-être un peu moins fortes qu'il y a un certain temps, mais c'est nettement plus élevé que l'inflation. Donc, la bouffe nous coûte plus cher que ce qu'on voit. Parti politique, maintenant, bon, il y a whip du gouvernement, M. Lefebvre, qui lève les feutres pour aller faire de la politique au fédéral. Il va siéger comme député indépendant. Je serais tenté de vous dire, il veut être payé pour sa campagne électorale parce que, puis c'est sûr qu'il va l'organiser à partir de maintenant, là. On se comptera pas d'histoire. Tout en étant le député. On le présente comme quelqu'un d'extrêmement populaire dans son comté, bravo. Mais est-ce qu'il va provoquer une élection partielle? Et ce bout-là, moi, ça m'énerve. Parce que quand tu vas chercher un mandat, sauf pour des raisons de santé, puis des raisons très graves, tu dois le compléter et ne pas imposer une élection. Peut-être qu'il n'y en aura pas, mais la probabilité est quand même réelle. Et là, hier, on a vu l'ensemble des caquistes montrer un petit peu de panique. Quelqu'un qui quitte le bateau, les sondages sont mauvais. Plusieurs, notamment dans la région de Québec, se disent « on va être battus ». Le premier ministre dit « moi, je me représente ». Éric Girard ne répond pas parce qu'il dit que c'est pas pertinent. Quelqu'un qui ne répond pas répond quand même un peu, là. Et il a déjà dit qu'il aurait aimé être ministre des Finances du Canada, déjà été candidat conservateur. Et là, tu dis « mais est-ce qu'il va le faire ou pas ?» On peut pas dire qu'il a fermé la porte, là. On peut juste dire que Il n'a pas voulu répondre parce que peut-être qu'il n'est pas décidé. Et en parallèle, M. Poilievre est parti avec son autobus et ramasse les candidats sur le bord du chemin. Et peut-être préciser à M. Girard que l'ancien ministre des Finances de la Colombie-Britannique, Mike de Jong, qui est un politicien de carrière qui a travaillé à ce qui est un peu l'équivalent du Parti libéral, mais disons moins à gauche, un peu plus au centre puis centre-droit. Et M. de Jong va devenir candidat pour Pierre Poilievre. Alors, est-ce que c'est son prochain ministre des Finances? Il a dit que M. Trudeau prend le Canada pour un vaste guichet automatique et que M. Trudeau n'arrête pas de faire des retraits à partir de vos poches. Donc, c'est l'image très forte. Alors, comme M. Poilievre a une grosse avance, ben c'est sûr que les candidats se bousculent. Puis là, les gens lèvent la main. Est-ce que d'autres caquistes vont être tentés de dire « pas le goût de manger une volée, puis je vais aller poursuivre avec le Parti conservateur » Bien des gens doivent être intéressés à aller regarder s'il y a une possibilité de ce côté-là. Et ça veut dire que Pierre Poilievre va pouvoir choisir parmi une banque de candidats qui se garnit quand même assez rapidement ailleurs au Canada, mais probablement ici au Québec. Rapidement, pour ce qui est des autres nouvelles, d'abord vous dire qu'il n'y a toujours pas d'accord de cesser le feu et qu'on attend cette réplique à venir d'Israël suite évidemment, l'attaque de l'Iran par drone et missile en fin de semaine. Le Qatar dit qu'on va redéfinir le rôle là, parce qu'ils sont comme un peu tannés. La négociation n'avance pas. Et on sait que le Qatar abrite des leaders du Hamas. Alors, il y a tout cet enjeu, mais il y a ces opérations militaires qui continuent sur le territoire de Gaza. Puis donc, on attend de voir que va faire Israël suite aux attaques de la fin de semaine. Et puis, le procès de Donald Trump qui reprend aujourd'hui à 7 membres du jury qui ont été choisis. Et M. Trump continue de faire des attaques en disant que pratiquement les membres du jury sélectionnés font partie de la gauche libérale, que tout ça est un vaste scénario. Je rappelle qu'il n'a pas le droit de faire ça. Il ne peut pas commenter et faire des remarques sur les membres du jury, sur les membres de la famille du juge... peut commenter sa cause, mais pas y aller d'insultes sur ceux qui sont les acteurs, actrices de ce procès très, très médiatisé.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand.
Parlons du prix de l'essence maintenant. Une hausse spectaculaire dans les dernières heures. Pas partout, c'est... l'habitude, ça varie un peu d'un endroit à l'autre, mais essentiellement, par exemple à Montréal, le prix de l'essence à la pompe a touché 1,91$, 1,92$ le litre. On nous dit que c'est probablement la hausse la plus importante, ou en tout cas le niveau le plus important depuis les deux dernières années. Le professeur Pierre-Olivier Pinault est avec nous de la chaire de gestion du secteur de l'énergie HEC Montréal. Monsieur Pinault, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Alors, pourquoi cette augmentation quand même, là, quoi, de 20 sous le litre tout d'un coup?
Deux grandes raisons. La première, c'est qu'on passe à un changement de type d'essence. Les mélanges que les raffineurs font pour l'été sont différents. Et donc, ils mettent des produits qui sont un peu plus chers. Il y a moins de butane l'été que l'hiver. Parce qu'on veut qu'il y ait moins de volatilité, moins d'évaporation. Avec la chaleur de l'été, l'essence peut s'évaporer et on ne veut pas qu'elle s'évapore. Alors, ils mettent des produits plus lourds qui s'évaporent moins, moins de butane et ça coûte plus cher ce qu'ils mettent pour remplacer le butane. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est que depuis deux semaines, là, le prix du brut a augmenté d'une dizaine de dollars sur les marchés internationaux. Puis ça fait un 6 cents de plus l'essence. Alors, les deux combinés et puis évidemment, le jeu de tarification de l'essence fait en sorte qu'il monte en flèche, ça devrait redescendre. C'est ce qu'on observe d'habitude sur les marchés de l'essence. Ça monte rapidement, puis ça descend après tranquillement un petit peu.
Mais quand vous dites ça redescend, est-ce que ça peut revenir au niveau d'avant cette augmentation ou on va redescendre, mais pas tant que ça?
Alors, on ne sait pas, ça dépend comment le prix du brut à l'international va varier. Et ça, c'est la géopolitique, c'est l'offre et la demande. ça peut redescendre, mais comme on voit les tensions au Moyen-Orient, l'Iran qui ça semble pas se dégrader et la situation ne semble pas s'envenimer beaucoup plus au Moyen-Orient, mais il y a des tensions là-bas, ça peut affecter les marchés du pétrole, mais si tout reste calme et si surtout la demande de l'été ne monte pas trop, et puis ça se peut que l'été, traditionnellement, les gens prennent la route pour les vacances, puis là on commence un petit peu à rentrer dans la saison d'été. Donc ça dépend de l'offre et de la demande, mais si la demande reste plutôt calme, parce que la situation économique est pas non plus très favorable, et si les tensions sont au Moyen-Orient sont pas trop fortes, on pourrait voir le prix descendre, mais il faut pas s'attendre non plus à des descentes trop importantes.
Merci beaucoup, c'est très apprécié. Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Au revoir. Pierre-Olivier Pinault, donc, est le titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal. Et l'électrochoc, on l'a reçu ce matin, là, les gens qui entraient à la station disaient as-tu vu, 1h91.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Non, on parlait du ménage du printemps à la ville de Montréal, particulièrement du centre-ville. Beaucoup de gens m'envoient des images, des photos de poubelles qui débordent. La petite roche qu'on retrouve encore dans la rue, les trottoirs. Notre invité ce matin, Alia Hassan Cournol, qui est conseillère désignée pour Ville-Marie, conseillère aussi de l'arrondissement dans Mercier-Hochelaga, Maisonneuve. Bonjour.
Bon matin, M. Arcand.
L'opération nettoyage là, qui a été annoncée hier avec les médias et tout ça, c'est commencé pour vrai depuis quand?
Ben, c'est commencé activement depuis environ plus d'un mois dans tous les arrondissements de la ville de Montréal. L'enjeu qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas encore tous les équipements. Fait que les cols bleus, parce que le printemps est plus tôt cette année, se sont retrouvés à devoir ramasser les déchets à la main, utiliser la bonne vieille pelle et le balai, puis les gros équipements qu'on avait n'étaient pas encore sur le terrain. Là, ça y est, on y est. Les équipes sont déployées. C'est plus de 1500 personnes partout sur l'île de Montréal qui s'occupent juste de la propreté. Et dans Ville-Marie, parce que nous aussi, on les reçoit les vidéos puis les courriels de citoyens qui sont fâchés. Puis on le sait qu'il y a des enjeux à des endroits particuliers. Ben, on met les bouchées doubles. Et hier, la mairesse a annoncé des mesures supplémentaires particulières pour Ville-Marie, avec une attention dans le centre-ville et dans le centre-sud.
OK. Les vrais enjeux sont lesquels? Vous dites, on sait qu'il y a des endroits, c'est plus compliqué qu'ailleurs. Là. Les enjeux du centre-ville, c'est quoi pour vous?
Ben, les enjeux du centre-ville, c'est que c'est vrai que c'est passant. Il y a beaucoup de monde qui se déplace. L'été, on le sait, c'est encore plus actif. Il y a les festivals, notamment. Donc, on a des enjeux, on va pas se le cacher, parfois de comportement. Des gens qui, vous savez, juste attendre le petit 2 minutes supplémentaires pour mettre votre papier mouchoir dans la poubelle de votre bureau ou à la maison, ça fait une différence énorme sur le travail des équipes. Fait que c'est des choses comme ça. À cause de la crise des vulnérabilités, il y a des endroits dans Ville-Marie, dans le centre-ville, où c'est plus sale parce que des populations plus vulnérables, en itinérance notamment, et je veux surtout pas faire de préjugés ici.
Non, mais c'est une réalité quand même, ils dorment dehors.
Absolument, c'est une réalité, puis ça, on met une attention particulière assurément sur la question de la propreté, mais aussi de l'intervention sociale et même de l'insertion sociale. Là, dans Ville-Marie, on travaille maintenant avec des organismes communautaires qui interviennent sur la question des dépendances ou d'itinérance pour faire de l'insertion sociale, puis donner des petits contrats ou du bénévolat à des personnes qui veulent se réinsérer.
Ça prend combien de temps faire le ménage au centre-ville?
À grandeur de la ville, on dit que c'est environ un bon 6 semaines. Dans le centre-ville, même chose, parce que c'est plus dense, il y a beaucoup plus de passages, donc faut passer le balai plusieurs fois. Donc, c'est sûr que les résultats, là, on n'y est pas encore. Dans 6 semaines, ça me ferait plaisir qu'on s'en reparle et qu'on fasse un bilan, ça devrait être mieux. Mais maintenant, on va pas se le cacher, la question de la propreté, c'est à l'année longue qu'il faut
la
gérer.
Non, mais je vous soulève les questions que les gens me posent, là, me fait le relais un peu, là. Est-ce qu'on a assez de poubelles au centre-ville?
On en a rajouté 700, parce que non, il n'y en avait pas assez. Donc ça, c'est un premier problème qu'on a adressé.
Est-ce qu'on les vide assez souvent parce que ça déborde à bien des endroits, puis je peux vous faire une longue liste si vous voulez.
Oui, puis on les voit aussi.
OK.
Il y a assez d'équipes sur le terrain. Maintenant, il faut qu'elles passent plus souvent. Puis c'est ça qu'on est en train d'ajuster. Et particulièrement dans la saison estivale, quand il y a les festivals, il faut les ramasser encore plus souvent. Maintenant, quand elles débordent, vous savez, si quelqu'un est capable d'amener son pique-nique au parc, bah, si la poubelle déborde, il est capable de le ramener à la maison puis le mettre dans le recyclage. Ça, ça nous aide énormément.
Les sacs à ordures, là, les déchets, là, beaucoup de gens me disent qu'il arrive de temps en temps que la collecte se termine, passe pas, puis bon, ils appellent au 3-1, puis se font promener d'un endroit à l'autre, ils n'ont pas de réponse. Si je mets mon sac à l'heure prévue, puis qu'il n'est pas ramassé, vous reviendrez pas avant deux semaines?
Non, on revient plus vite que ça, puis honnêtement, oui, les arrondissements essaient vraiment de faire des efforts là-dessus. On donne des contrats à des équipes pour gérer la collecte, c'est rarement directement géré par les arrondissements ou la ville-centre, fait que c'est pour ça qu'il y a une question de délai, mais ça se fait pas en dedans de deux semaines. Puis les gens, ça, je vais le redire, appeler le 3-1, c'est capital. Il n'y a pas de réaction.
C'est capital, mais c'est compliqué.
C'est une machine compliquée, la ville de Montréal.
Ça c'est
vrai, on va pas se le cacher. Mais oui, il y a des réponses. Puis s'il y a des enjeux et que ça prend trop de temps, nous, les élus, on est là pour ça. Ça, c'est la propreté, c'est le core business de la ville de Montréal. Fait que les citoyens, 3-1, application de la ville de Montréal, ça va pas assez vite. Vous nous envoyez un petit courriel à vos élus locaux de quartier, c'est notre job, avec le numéro de la requête que vous avez fait. Puis nous, on va mentionner les enjeux particuliers à la direction concernée.
Pourquoi c'est variable d'un arrondissement à l'autre? Pourquoi il y a des arrondissements, c'est, comme on dit, bien fait, rapidement fait, puis d'autres, c'est pathétique?
Mais il y a des questions de budget là-dedans. Il n'y a pas tout à fait les mêmes ressources parce que vous savez que c'est une compétence en partie partagée, la question de la propreté. Là, il y a 50 millions qui sont mis par le central, puis le reste, ça va aux arrondissements. Il y a eu des enjeux dans le passé avec des compagnies de collecte de déchets, puis ça, vous le savez très bien. Donc ça, c'est une des données qui fait que c'est variable. Et puis, la question des équipements. Tous les arrondissements n'ont pas les mêmes équipements, puis on se les partage, les équipements les plus important.
Ce que vous me dites, dans le fond, c'est compliqué, la ville de Montréal. C'est toujours compliqué.
On facilite les choses. Puis on se rend compte que c'est compliqué. On sait que ça frustre parfois les citoyens. Puis on le sait qu'en ce moment, on est dans la transition printanière. Ça revient à tous les ans. Fait que nous, là, on essaye d'être plus agile, de trouver des solutions. Regardez, là, dans Ville-Marie, dans les mesures qui ont été annoncées, on a donné de l'argent à la Société de développement commercial qui nous donne un coup de main pour la SDC. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a fait des corvées avec les grandes entreprises du centre-ville. Ça, c'est super, ça nous aide. Puis, la question de la propreté, absolument le core business de la ville. Si on peut s'améliorer, on le fait, on est en train de le faire, c'est pour ça qu'on annonce des nouvelles mesures. Mais c'est l'affaire de tout le monde. Fait quand tout le monde met la main à la pâte...
J'enlève pas les responsabilités individuelles.
C'est
quelqu'un
super.
Qui jette un papier, quelqu'un qui est mal propre, et je pense qu'il y a un loup de cochon dans le centre-ville, là, puis dans les autres arrondissements. Mais quand même, on a l'impression que c'est tellement compliqué, que l'arrondissement le fait pas. Mais là, c'est parce qu'il n'y a pas l'équipement. Mon équipement est rendu ailleurs. Vous dites que c'est notre priorité, mais ça paraît pas toujours.
Mais c'est une priorité, puis on s'est largement amélioré. Les mesures qu'on rajoute là le montrent. On met plus d'argent, plus d'équipes, plus de moyens, plus d'achats d'équipements. Maintenant, je vous jure, si j'avais une baguette magique et que je pouvais faire ça en un clic de doigt, on le ferait. Ça prend du temps. Faut que les citoyens comprennent que là, en plus, avec les changements climatiques, faut qu'on se retourne. On doit commencer plus tôt ou plus tard. Il y a de la neige, il y a encore des tempêtes, ça refond. Fait que tout ça, ça a un impact sur la question de la propreté, puis ça demande à nos équipes d'être plus agiles. La job, on l'a fait, Monsieur Arcan.
Les ordures, là.
Ouais.
Est-ce que c'est un problème, les gens qui ne respectent pas l'horaire de collecte, là, qui sortent les sacs la veille trop tôt?
Bien sûr que c'est un problème.
Un vrai problème?
La question du comportement, elle est fondamentale. La ville de Montréal, elle n'est pas au col bleu, elle n'est pas aux élus, elle est absolument à tout le monde. Fait qu'on a tous vraiment une question de responsabilité qui est super importante. Oui, il faut suivre les heures de collecte. Parce que,
veut dire que beaucoup de Montréalais ne respectent pas l'horaire?
Il y en a qui ne respectent pas l'horaire. Est-ce que c'est beaucoup de Montréalais? Ça, je ne suis pas capable de vous le dire.
Mais
Je pense qu'il y a des avis qui sont donnés. Bien sûr qu'il y a des contraventions qui sont données. Puis même, les citoyens signalent. Là, je voyais un post dans Hochelaga, mon quartier, ce matin, où des citoyens signalaient que des ordures de construction avaient été mises devant la mauvaise porte. Puis beaucoup beaucoup trop tôt. Fait que ça, c'est sûr que c'est pas le fun quand on se ramasse dans la rue, okay, puis c'est pas
quelle
ramassé.
Quelle est la conséquence? Quelqu'un là, qui comme...
Une amende.
OK, il y en a eu combien de données, par exemple, depuis un an?
J'ai pas les statistiques des amendes, mais elles sont données, les amendes. Puis on les envoie à les inspecteurs. C'est pour ça qu'encore
des
une fois...
Des amendes ou des avertissements?
Des amendes. Puis, elle est salée, l'amende. C'est autour de 300 $ là. Moi, ça j'aimerais pas ça me prendre une amende parce que j'ai mis mon sac d'ordures plutôt sur le trottoir. 300 $ c'est pas rien. C'est dissuasif.
Attendez, vous me dites vraiment qu'il y a des amendes de 300 $ qui ont été données à des citoyens, pas un entrepreneur, là, des citoyens qui ont sorti le sac trop tôt.
Oui, ça arrive.
Puis, trouvez-moi les chiffres.
Ça me fera plaisir qu'on vous les donne, Monsieur Arcan. Mais oui, j'ai déjà eu des cas comme ça qui m'ont été parvenus comme élu dans MHM.
Et comment
notamment.
Vous déterminez que le sac, c'est le sac du citoyen qui habite à telle adresse?
Avec les signalements, notamment. Et puis, l'inspecteur est capable de retracer parfois comment le sac est arrivé là.
Des signalements?
Oui, il y a des signalements citoyens, les voisins. Les gens, ils sont tannés quand les règles ne sont pas respectées, quand les gens ne font pas leur part. La plupart des citoyens, ils sont de super bonne foi et puis contribuent à la question de la propreté, du respect des règles. Mais on est dans un contexte où, on ne va pas se le cacher, c'est parfois difficile. Il y a des endroits où c'est plus sale que d'autres. Puis si en plus, il y a des gens qui sont délinquants, c'est un grand mot, bien sûr que moi, si je suis avoisine, je suis tannée. Je veux que ma rue elle soit propre. Oui, il y a la question de l'intervention de la ville, mais oui, il y a la question du comportement.
Merci d'être venu ce matin, puis trouvez-nous les chiffres.
Avec plaisir,
j'ai hâte de voir ça, les amendes de 300
$. On vous ramène ça.
OK, merci beaucoup.
Bonne journée.
Alia Hassan Cournol, qui est conseillère à la Ville de Montréal.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
Premier sujet, je reviens sur ce vol assez spectaculaire dans une bijouterie. Au centre Fairview Pointe-Claire, ça s'est passé la semaine dernière, 10 personnes ont été arrêtées. Et le sergent détective Anthony Cantelmi est avec nous, il est enquêteur au groupe Projet à la division des enquêtes criminelles du SPVM. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, monsieur.
Racontez-nous ce scénario de film un peu. D'abord, vous avez eu quoi? Eu vent qu'il y avait des voleurs qui se préparaient à frapper dans cette bijouterie.
Exactement. Donc, notre unité, on travaille en amont. On essaie d'identifier des suspects possibles qui seraient sur notre territoire. Puis, on avait ciblé une cellule de gens sud-américains qu'on croyait être sur le point de commettre un crime. Donc, on s'est mis à les surveiller. Et puis, on a vu certaines choses qui nous ont indiqué que un passage à l'acte était imminent.
OK. Quand vous me dites « j'ai détecté une cellule », là, on parle quoi? D'une organisation qui fait du tourisme criminel, qui se déplace un peu partout?
Donc, c'est un peu le phénomène des groupes de voleurs sud-américains, communément appelés les South American Theft Groups, SATG. Et effectivement, c'est des touristes criminels. C'est des gens qui arrivent de pays sud-américains, normalement le Chili et la Colombie. Ils arrivent au Canada avec souvent des fausses identités ou des vraies identités obtenues frauduleusement. Ils vont venir au Canada et avec le but de commettre des infractions criminelles non violentes souvent, des introductions par effraction résidentielle commerciale, des vols par diversion. Également, ils peuvent faire du vol à l'étalage.
Est-ce que vous savez pourquoi ils ont ciblé cette bijouterie? Quelqu'un qui arrive là du Chili, pourquoi il s'en va à Pointe-Claire au centre commercial puis qui pense que c'est là qu'il faut frapper?
Ça, c'est pas clair encore.
Okay.
On essaie de le comprendre. Évidemment, une bijouterie, c'est une cible en soi, exactement.
Et il y a eu de la filature.
Il y a eu de la filature, entre autres, oui. Le but était de confirmer nos soupçons sur ce groupe-là. Et effectivement, lors de 3 journées de surveillance, on a vu effectivement plusieurs choses qui nous indiquaient, OK, ça s'en vient, il va y avoir un passage à l'acte bientôt. C'est pour ça qu'on était...
Qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vos policiers ont vu qui venait confirmer là les soupçons?
Donc, je vous disais, entre autres, on a vu du repérage. Donc, on a passé plusieurs longues minutes et heures proches de la bijouterie ciblée. Et par la suite, on a vu des indications aussi d'achat d'équipements spécialisés qui pourraient servir à faire ce genre de vol.
OK, mais ce sont des vrais professionnels, là.
Oui, vraiment, on n'a pas affaire à un petit groupe désorganisé. Ça, c'est de la criminalité organisée. Vraiment organisée, c'est des gens qui se préparent. Et c'est pour ça que c'est difficile de travailler ce genre de groupe.
Est-ce que vous savez, là, parce que vous les avez arrêtés, puis bon, ils sont détenus et tout ça, où ils ont frappé avant de venir à Montréal?
Ça, c'est sous enquête présentement, mais j'ai déjà des sons de cloche qu'ils ont fait d'autres crimes ailleurs au Québec et au Canada. Mais tout ça est sous enquête encore.
OK, donc ils étaient sur le territoire depuis un certain temps, je comprends bien.
On est en train de le confirmer. Honnêtement, tout ça est arrivé très récemment. Et là, on travaille avec nos partenaires policiers au Québec, au Canada, et avec les services frontaliers pour confirmer les identités, les entrées au pays. Combien de temps ils sont ici pour ensuite cibler les crimes qu'ils auraient pu commettre?
OK, là, on fait un scénario de film. Là.
Ouais.
OK, vous les suivez. Vous entendez dire qu'ils sont en train de préparer. D'abord, est-ce que dès le départ, c'était cette bijouterie qui était ciblée ou s'il y en avait d'autres là, où ils allaient faire comme ça du repérage?
Donc, celle où ils ont finalement frappé, on n'avait pas prévu qu'ils allaient là.
C'est vrai.
Ils avaient ciblé une autre place, selon nous. Ce qu'on a vu sur la surveillance, c'était qu'ils avaient ciblé une autre place. Alors, le soir de l'événement, même si eux, dans leur tête, c'était très planifié, l'événement, mais pour nous, on l'a vécu en temps réel. Donc, il a fallu s'ajuster.
OK, vous avez été quoi, surpris de les voir s'en aller à Pointe-Claire?
Totalement. Totalement, oui. Alors, des fois, on essaie d'avoir de l'information d'avance pour alimenter nos plans, mais là, celle-là, on l'a eu en temps réel, puis on a dû s'ajuster rapidement.
OK, puis quand vous les avez vus partir pour le centre commercial de Pointe-Claire, là,
oui.
Il était quelle heure à peu près? C'était en soirée, ça?
En soirée, vers la fermeture du centre commercial.
OK, puis là, ils ont réussi à commettre le vol. Vous les attendiez patiemment à l'extérieur?
En fait, on s'est déplacé sur les lieux avec le but de voir tout ce qu'on pouvait. Et puis à un certain moment, beaucoup plus tard dans la soirée, alors qu'on n'était pas certain qui était où, on voyait des véhicules bouger. Honnêtement, on voyait un mouvement concerté de différents véhicules. Il y en a certains qui faisaient le guet à l'extérieur dans deux véhicules. Donc on voyait quelque chose se passait. Et à un certain moment, la voiture principale, si on veut, s'est approchée d'une porte de service. Et là, on a vu plusieurs individus sortir du centre d'achat, embarquer rapidement dans la voiture, et là, les trois voitures quittent et ils s'en vont sur l'autoroute. Alors maintenant, ça, c'était le temps de voir est-ce qu'il y a eu commission d'une infraction criminelle. Donc, on est parti rapidement à la recherche, et c'est là qu'on a trouvé le commerce adjacent à la bijouterie avec un trou dans le mur qui les séparait.
Et ils ont réussi à voler pour 3 millions de valeurs.
Ça, c'est une estimation. Évidemment, les évaluations réelles sont encore en cours, mais on parle de l'inventaire quasi total de la bijouterie.
Puis ça leur a pris combien de temps, vous pensez, faire ça?
C'est encore sous enquête. Là, on travaille à comprendre combien de temps réellement ils étaient à l'intérieur du centre d'achat. Mais définitivement, ils ont pris leur temps. C'était un travail minutieux, bien planifié. Il n'y avait rien laissé au hasard.
Puis ils étaient bien équipés là, pour être capables de faire ça aussi. Là.
Totalement, tout à fait.
Est-ce qu'il y a d'autres groupes criminels de cette nature qui sont sur le territoire?
Alors, quand on parle de SATG, on parle pas d'une organisation criminelle comme un gang de rue ou les...
La mafia, là.
La mafia. On parle plus d'un modus operandi, une façon de faire.
Okay.
Donc, est-ce qu'il y a d'autres groupes SATG? Toujours. Depuis les dernières années, il y a un enquêteur d'expérience sur notre équipe qui prendra sa retraite sous peu, mais lui, il y a plusieurs années, il a commencé à travailler ce phénomène. Et depuis qu'il a commencé, on doit être autour de 40 ou 50 arrestations en flagrant délit pour des crimes similaires à ça, soit des intros. Souvent, c'est des intros par effraction dans les résidences, mais ça peut être des commerces.
Mais vous savez, ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on a l'impression que des vols comme ça de bijouterie, de banque, c'est... rare, c'est dépassé parce que les gens, on voyait le bilan hier sur 15% d'augmentation d'arnaque, des faux représentants, des trucs par ordinateur, par téléphone. Puis que les banques, ça remonte, ou les bijouteries, c'était à une autre époque. Visiblement pas.
Comme on disait tantôt, c'est une cible. C'est une cible facile pour la quantité de choses précieuses. Ouais. Ouais.
Merci beaucoup, puis bravo à votre équipe.
Merci.
C'est le sergent-détective Anthony Cantelmi qui est du SPVM. Donc, ces gens-là ont été arrêtés. 8 hommes et 2 femmes également. Je vous le dis ce matin, c'est comme récurrent vol, arnaque, fraude, collusion. Il y a 6 agences privées de placement donc qui alimentent le réseau de la santé, par exemple pour des postes d'infirmières, de préposés aux bénéficiaires, qui ont été placés sur la liste noire de l'Autorité des marchés publics. Pas pour les mêmes raisons, mais il y en a 3 qui ont été pointés, semble-t-il, pour de la collusion. Tristan Péloquin de La Presse est avec nous. Bonjour, Tristan.
Salut, Paul.
Bon, ce sont, si on prend les 3 premières agences, là, des agences qui ont profité notamment de la pandémie, puis qu'on les accuse quoi d'avoir établi les prix, partagé le marché.
effectivement, c'est trois agences qui faisaient partie du même réseau, en quelque sorte. Là. Il y en a une qui est une franchisée de l'autre. Puis quand il y a eu cet appel d'offres-là, ce que dit l'autorité des marchés publics, c'est que il semble qu'elles ont parlé ensemble des prix et se sont entendues sur des prix. Il faut comprendre que cet appel d'offres-là est assez particulier, là, c'est-à-dire que le gouvernement voulait limiter les tarifs là, qui étaient imposés par ces agences-là. Et il a dit en quelque sorte, donc, celle qui va soumissionner le plus bas va avoir le premier rang, va être la première qui va être appelée pour placer son personnel. Et toutes les agences qui vont soumissionner à plus du double de ce prix-là vont être exclues du marché. Alors, quand l'appel d'offres a été attribué, ça a fait une grogne incroyable. Beaucoup d'entreprises se sont plaintes de la situation. Et assez rapidement, les entreprises qui ont été exclues du marché ont comme enquêté, se sont rendues compte que il semblait y avoir de la collusion. Il y avait des prix qui étaient trop... c'était comme trop particulier. Là. Une des entreprises avait le plus bas prix, l'autre était tout près du double. Puis finalement, il y a eu des enquêtes. Là, puis l'autorité des marchés publics finit par dire effectivement, il y a une apparence de collusion. Puis ils ont décidé de placer ces trois entreprises-là sur le registre des entreprises non admissibles au contrat public.
Bon, c'est ce qu'on a vu un peu comme mécanisme là, pendant la commission Charbonneau. Là, c'est-à-dire celui qui est déterminé pour aller chercher le contrat, puis les autres qui deviennent comme des soumissionnaires de complaisance.
Oui, c'est en plein ça. Ce qui est vraiment formidable, c'est que bon, l'enquête tient en grande partie sur un administrateur, le propriétaire d'une compagnie qui s'est mis à table, qui s'appelle Elliott Casser. Et lui, ce qu'il explique là, dans un affidavit, c'est que c'est même pas lui qui a décidé de son prix. En fait, il a même fourni sa signature sur un petit bout de papier à la personne qui remplissait les prix en son nom, donc qui était le dirigeant d'une autre entreprise. Puis il dit il y avait même pas d'infirmière qui travaillait pour son entreprise pour combler les besoins. Il y avait une seule infirmière qui faisait de la formation, mais il s'est retrouvé avec le meilleur prix dans le marché, aucune infirmière à fournir. Et là, quand le contrat était attribué par le gouvernement, dès le lendemain, là, il recevait des centaines de courriels par jour, mais il pouvait même pas y répondre parce qu'il y avait même pas les infirmières nécessaires. Donc cette personne a dit moi j'ai eu aucun contrôle là-dessus, c'est une fiction, c'est pas moi qui ai signé les appels d'offres et donc son témoignage est quand même clé là dans l'enquête. Ce que j'ai su hier aussi c'est que donc l'autorité des marchés publics a décidé de mettre les entreprises sur la liste noire, mais ils ont aussi fourni le résultat de leur enquête à l'UPAC là et au bureau de la concurrence aussi qui va continuer l'enquête. On va voir, il pourrait éventuellement y avoir des accusations criminelles déposé dans cette affaire-là.
Tristan, c'est quoi la mécanique? Une fois qu'on est placé sur la liste noire, est-ce que, puis qu'on a un contrat, on continue de le respecter, il s'arrête comme ça, brutalement? Comment ça se passe?
La loi prévoit là, qu'il y a un 60 jours de délai, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur la liste noire, on a 60 jours pour mettre fin au contrat, sauf si le Conseil du Trésor fait un décret spécial. Là. Hier, Sonia Lebel nous a dit non, il n'y en a pas question, on fait confiance à l'autorité des marchés publics. Mais donc, la mécanique est très claire. Il y a quand même beaucoup d'entreprises hein, sur ce registre-là. On parle de 2300 entreprises qui y sont. Donc, il leur est interdit pendant 5 ans de participer aux contrats, aux appels d'offres. Il y a des entreprises, beaucoup de construction qui sont visées par ça, des entreprises d'approvisionnement, par exemple. Il y a les entreprises de Tony Accurso qu'on voit, là, quand on regarde le registre. Donc, c'est très punitif, là. Les entreprises donc, ne peuvent plus faire affaire avec le gouvernement, mais peuvent demander éventuellement une espèce de... c'est une révision judiciaire là, qui leur permet de éventuellement de réintégrer si elles se conforment là, à des nouvelles règles, des règles plus strictes. Là. Mais souvent, là, quand ces entreprises-là se font mettre sur ce registre-là, ben il y en a beaucoup qui font faillite là, par la suite, là, qui n'arrivent ouais. plus à avoir des revenus. Là.
Puis il y en a d'autres qui, je dirais, trouvent des façons de changer la couleur de la devanture, puis de partir sur un autre nom, puis de rester en arrière, puis mettre le conjoint ou la conjointe vers l'avant.
Effectivement, il y a beaucoup de prête-noms, mais la liste est très, très exhaustive. Là. Donc, il y a le nom des entreprises, le nom des propriétaires et même des actionnaires secondaires qu'on voit apparaître là-dedans. Mais effectivement, puis ça a été bien dévoilé dans la commission Charbonneau. Comme tu dis, on change de couleur, on trouve un membre de la famille qui va aller mettre son nom à la place de l'entreprise, puis souvent ça continue. C'est peut-être une des craintes qu'il y a dans le cas de ces agences-là, sauf que le gouvernement a quand même annoncé son intention de mettre fin à l'utilisation de
des agences.
De drogue dure, là, des agences, effectivement. Hey, c'est pas banal. Là. On parle de 1 million de dollars par année. Le contrat prévoyait là 8 millions d'heures accordées. Donc là, le gouvernement veut se retirer, veut cesser d'utiliser ces agences-là. À partir d'octobre l'année prochaine, ça vient vite. Il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui pensent que ça arrivera pas parce que le gouvernement a encore beaucoup besoin là, de ces agences de placement-là.
Merci beaucoup, Tristan. Bonne journée.
C'est un plaisir.
Au revoir, Tristan Péloquin du journal La Presse. On peut ajouter aussi ce matin que Le Devoir parle de l'utilisation d'agences pour les centres jeunesse, pour des agents d'intervention, entre autres, puis pour d'autres types d'emplois. Et on parle encore là de dizaines de milliers d'heures qui sont payées par les autorités gouvernementales parce qu'on n'a pas le personnel. C'est toujours la même chose. Et on sait que le gouvernement, et Tristan vient de le dire, on veut se sevrer des agences. Est-ce qu'on va être capable? Et là, ça nous ramène à la discussion qu'on a depuis quelques jours sur le rejet de l'entente de principe avec la FIC. Pensez-vous qu'il va y avoir tant d'employés du privé qui vont s'en aller vers le gouvernement, alors que les infirmières nous disent qu'on peut se faire promener, puis que la mobilité, c'est ce qui nous paralyse, puis qu'on veut rien savoir, puis je recommencerai pas la discussion d'hier, là, mais c'est tout un exercice que le gouvernement tente de faire, là, parce que on veut pas d'agence. On veut leur personnel, puis il faut que tout ça arrive là d'ici le mois d'octobre. Ça va être à suivre. Bon, on a appris hier à TVA que Québec met fin à une entente, à la fin du mois de mai d'ailleurs, avec les médecins omnipraticiens, qui permettait, c'est ça l'objectif, d'avoir un meilleur accès aux soins de première ligne, c'est-à-dire donc des médecins qui, en GMF, prenaient la charge d'inscrire un patient et donc de lui offrir un accès. Ce qu'on a compris du ministre, c'est qu'il va couper l'argent, mais il s'attend à l'inscription quand même de ses patients. Le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec est avec nous, le docteur Marc-André Amiot. Docteur Amiot, bonjour.
Bonjour.
Bon, là, je comprends, là, puis on va essayer de mettre ça le plus clair possible. Il y avait une entente, elle se termine le 31 mai. L'entente dit quoi actuellement, puis qu'est-ce qui va changer?
L'entente dit... cette entente-là, c'est une entente temporaire vers un nouveau modèle d'organisation et un nouveau modèle de rémunération. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt à mettre ce nouveau modèle d'organisation-là. Nous, on a proposé des choses au gouvernement. On avance, mais il faut un pont. Il faut prolonger cette entente-là jusqu'à l'arrivée de ce nouveau modèle d'organisation-là. Et là, à l'heure actuelle, là, concernant ce pont-là, il n'y a aucune discussion. Il n'y a pas de négociation. Le gouvernement, de façon très malheureuse, a décidé de mettre fin à cette entente-là, en fait, de ne pas la renouveler temporairement jusqu'à ce qu'on arrive avec ce nouveau modèle d'organisation.
OK. Là, ce qu'on faisait depuis les derniers mois, là, c'était de prendre en charge des patients. Il y en a eu quoi? 900 000 qui ont été pris en charge?
Entre 900 000 et 1 million... de patients qui ont été inscrits collectivement en groupe. Donc, il n'y a pas un médecin de famille qui est attitré aux patients, mais il y a un groupe de médecins avec d'autres professionnels.
Et le médecin recevait 120 $ par patient inscrit.
Exactement. Et là, il y a des docteurs qui ont réorganisé leur pratique, qui ont embauché du personnel, embauché des infirmières pour optimiser le travail. Parce que ces patients-là qu'on voyait là avec le triage du GAP, vous comprenez que on fait voir par d'autres professionnels les cas qui ne nécessitent pas l'expertise du médecin de famille. Donc, ce qui arrive dans le bureau du médecin de famille, là, il est plus lourd, il est plus complexe, il nécessite une intervention plus intense avec d'autres professionnels. Ça, là, ce montant-là, c'est ça une forme de capitation. Et nous, l'entente prévoyait un pont vers un nouveau modèle d'organisation et un nouveau modèle de rémunération.
Okay, ça,
davantage
je...
axé vers la capitation.
OK, ça je comprends ça. Mais là, sur les 900 000 ou 1 million de patients inscrits pour lesquels un médecin a reçu 120 $ combien de patients ont vu le médecin? Être inscrit, c'est une affaire. Avoir un rendez-vous, c'est autre chose.
Ah, bien ça, c'est intéressant que vous apportiez ça parce que l'organisme qui était responsable de gérer ces rendez-vous-là, c'est le GAP. Les médecins de famille ont dit... on va donner 1 million de rendez-vous, 1 million de rendez-vous au GAP, là, puis mettez qui vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, dans ces rendez-vous-là. Ça, là, c'était l'engagement des médecins de famille. On vous donne les rendez-vous, puis vous les utilisez. Puis plus que ça, c'est pas tous les 900 000 ou 1 million de patients qui ont eu un rendez-vous. Ils n'en avaient pas tous besoin cette année. Bon, on a dit, on les enlèvera pas, ces rendez-vous-là. Donnez-les à des patients orphelins qui n'ont pas été inscrits collectivement. Il n'y a aucun rendez-vous qui a été laissé libre. S'il y en a, c'est parce que le GAP n'a pas placé un patient dedans.
Le GAP. Ah oui.
Oui.
Mais,
le GAP.
Oui, mais on va vous dire des affaires que vous n'aimerez pas, mais c'est pas grave. Il y a des gens qui me disent que le médecin avait le choix du patient à inscrire. Vrai ou faux?
Non, c'est faux.
C'est faux.
Écoutez, je vous le dis, ça c'est un autre guichet, hein, le guichet d'accès bon. À un médecin de famille. C'est lui qui envoyait les listes de patients à la RAMQ et la RAMQ informait les patients, voici le groupe qui va être responsable de vous donner des services, mais vous devez passer par le GAP pour avoir accès.
OK, mais par exemple, est-ce qu'un médecin pouvait dire, j'ai déjà beaucoup de cas de santé mentale, ça prend beaucoup de temps, je peux pas en prendre plus?
Ah, il peut avoir eu des exceptions. Je donne un exemple. Il y a des cliniques qui font davantage de pédiatrie. Hein? Ben on leur enverra pas des personnes âgées, des personnes gériatriques. Il peut avoir eu des exceptions et ça devait être accepté par le département régional de médecine générale. Il y avait un comité de suivi. Puis c'était des exceptions, ça.
OK. Là, le ministre vous dit, j'enlève le 120$, mais vous allez quand même continuer à inscrire puis à ouvrir des plages. Allez-vous le faire?
Bien, moi, là, on a informé nos membres, on a informé des options qui s'offraient à eux, puis c'est eux qui vont décider. Mais je vous dis, cet argent-là, elle a servi à embaucher du personnel. Il va y avoir des mises à pied de personnel, il va y avoir des mises à pied d'infirmières. J'écoutais des grosses cliniques là, dans différentes régions qui en ont pris plusieurs, là, des inscrits collectifs. Il y a des cliniques qui ont pris jusqu'à 40 000 inscrits collectifs. Patients inscrits collectivement, ils ont embauché du personnel. Ça va être à eux de déterminer ce qu'ils vont faire au 1er juin.
Je comprends, mais c'est parce qu'à un moment donné, à inscrire pour inscrire à coût de 120$, moi, il y a des gens qui m'ont dit, j'ai été inscrit puis je n'étais même pas capable d'avoir un rendez-vous.
Ah, mais là, attendez, là.
Là, vous allez me dire, c'est le GAP ou le 1 ou 2, là, je ne sais plus lequel.
Oui, exactement. Mais non, mais je vous le dis, ça, là, les médecins donnaient les plages au GAP. Puis, en passant, là, il n'y en a pas tant que ça, des plages qui sont restées vides au Québec. On a une utilisation à plus de 98% de ces plages-là. Parce qu'on peut mettre pas juste des inscrits collectifs, on met tous les patients du Québec qui appelaient au GAP et qui avaient besoin d'un rendez-vous.
Mais pourquoi j'ai un collègue ici, ça fait 3 ans qu'il essaie de se faire inscrire chez un médecin dans un groupe. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas de place pour lui nulle part.
Ben, je peux pas...
Je comprends, mais il n'est pas le seul, là. C'est ça que je veux vous dire. Là.
Non, je suis d'accord avec vous, c'est pas parfait, là. Je dis pas que c'est parfait, mais imaginez-vous... Là,
ben, on a vu le député Fortin, même pas capable d'aller chercher un rendez-vous à son GMF.
Non, ça, je comprends, c'est via Rendez-vous Santé Québec. C'est pas tous les rendez-vous qui sont visibles sur Santé Québec. Il y a des cliniques qui préfèrent... que le patient appelle au téléphone et il y a un triage qui est effectué. Oui, vous avez besoin de tel service, je vais vous faire voir par l'infirmière, pas nécessairement par le docteur. C'est ça un peu vers la tendance vers laquelle on s'en va au Québec. Puis ça, là, on a tout fait ça, ce million de Québécois-là et l'accessibilité améliorée, on a fait ça avec 100 médecins de moins en première ligne. Et il y a des médecins près de la retraite qui ont dit... Je vais rester encore un petit peu. Là. J'ai une médecin de 39 ans de pratique qui m'écrivait. Moi, là, j'ai décidé de rester pour faire du GAP, donner un coup de main. Il y en a plein des médecins comme ça. Vous arrêtez cette entente-là sans avoir de nouveaux modèles d'organisation. Ces docteurs-là, là, ça va être une perte nette. Pour nous, la décision du gouvernement, c'est une diminution de l'accessibilité à la population.
La dernière fois que j'ai parlé avec le ministre de la Santé, il m'a dit qu'il négociait avec vous puis qu'il commente pas quand il négocie. Donc, il parle pas, il négocie pas sur la place publique. Négociez-vous avec lui? Vous parlez-vous? Êtes-vous sur le bord d'une entente? Il arrive quoi?
On n'est pas sur le bord d'une entente. Nous, on lui tend la main, on lui dit, venez vous asseoir avec nous. Bon. Nous, on est disponible ce soir, en fin de semaine, 24 heures sur 24. On n'a pas de discussion.
OK. Merci, Dr. Amiot.
Merci.
Au revoir. Le docteur Marc-André Amiot, qui est le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
On vient parler du prix du litre d'essence. On a eu les données sur l'inflation dans les derniers jours et, je le sais, on regarde toujours de très près la facture à l'épicerie. Puis on regarde les produits, puis les produits frais, puis les produits sur les tablettes. Puis on se dit, c'est donc bien cher. Et Statistique Canada nous arrive en disant, ben savez-vous, l'augmentation est peut-être de 5-6%. En tout cas, c'est moins pire que c'était. Mais notre perception puis la réalité. Est-ce que les données de Statistique Canada tiennent la route? J'en parle avec Sylvain Charlebois de l'Université Dalhousie. Sylvain, bonjour.
Bonjour, Paul.
Là, tu as fait un comparatif avec ton équipe sur différents produits avec le prix déterminé par Statistique Canada puis le prix déterminé par ton groupe, quoi, ton équipe.
Oui, non, effectivement. En fait, il y a l'indice des prix à la consommation. L'indice sort à la troisième semaine de chaque mois, là. Mais ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que quelques semaines plus tard, Statistique Canada, en fait, publie une liste de 77 produits alimentaires avec le prix recensé pour le mois. Le mois comme le dernier, c'est le mois de février. Et depuis quelques mois, nous, on s'est outillé pour évaluer la performance de Statistique Canada, finalement, depuis le mois de janvier. Et puis là, ce matin, c'est ça, j'ai décidé de publier nos résultats et on a comparé nos résultats avec ceux de Statistique Canada pour le mois de février. Et puis, il y a quand même beaucoup de différences.
Ben, tu dis, Orange, par exemple. Je regarde le prix, la variation pour Statistique Canada, c'est moins 6%, et dans ton cas, c'est plus 20%.
Oui, plus 20%, oui, effectivement. Les fraises, une grosse différence. Les pommes de terre, cantaloupe, avocat. En fait, nous, on est en mesure d'aller de comparer 34 des 77 produits. Dans 41% des cas, là, pour les gens qui pensent que peut-être que Statistique Canada sous-évalue l'inflation, je pense que ça a été le cas l'année passée, mais maintenant, puisqu'il y a comme un virage d'un marché inflationniste, un marché peut-être même déflationniste dans le domaine alimentaire, là, moi je pense que Statistique Canada est toujours en retard. Là, actuellement, 41% des produits qu'on a recensés, le prix était sous-évalué, le restant, 59%, surévalué. Donc, on voit, ce qui arrive, Paul, dans le fond, c'est que Statistique Canada est en retard. Lorsqu'il y a un changement violent avec les prix, on lit pas exactement ce qui se passe dans le marché, il y a un retard.
Mais là, c'est important parce que, puis il y a la perception des gens. Hein, on n'achète pas tous les mêmes produits, on va pas tous au même endroit. Et là, on se dit, mais ça coûte au total, là, au final, de plus en plus cher. Est-ce qu'on a raison, un, de dire que ça coûte plus cher et que, deux, que ça a tendance peut-être à ralentir un peu?
Ben, ça a ralenti. Cette semaine, on a eu quand même de bonnes nouvelles. Là. L'indice de prix à la consommation, pour ce qui est des produits alimentaires en magasin, on parle de 1,9% pour le mois de mars. Moi, je peux dire tout de suite, Paul, que quand l'IPC va sortir pour le mois d'avril, on s'attend à une baisse encore une fois. Moi, j'ai l'impression qu'on s'en va vers le 1%. Il y a des rabais. Mais c'est certain que le cumul de l'inflation depuis quelques années fait mal, là. Et là, ce matin, on parle du prix de l'essence. Les gens vont devoir mettre plus d'argent dans leur voiture, mais cet argent-là va pas à l'épicerie. Fait que les gens vont dépenser moins à l'épicerie. C'est ce qui arrive actuellement.
Puis on peut ajouter les coûts de transport qui risquent d'augmenter en même temps.
Oui.
Tout ça est interrelié. Merci beaucoup, Sylvain.
Bonne journée.
Bye. Au revoir. Sylvain Charlebois, qui est le directeur principal du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire. C'est à l'Université Dalhousie.
C'est 23.